Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Judith Suminois réaffirme sa stratégie pour une RD Congo qui attire plus d'investisseurs face aux diplomates. Au cours de cette rencontre, les diplomates ont insisté sur la nécessité de créer un cadre propice aux investissements et de favoriser une croissance économique durable. Le nouveau chef de la MONUSCO a foulé le sol congolais depuis hier mardi soir. À sa descente d'avion, James Swan s'est dit très préoccupé par la situation d'insécurité et humanitaire alarmante à l'est de la RDC. Vous suivrez son portrait ainsi que les rappels du mandat de la mission dans ce journal. La RDC va commencer à partir de ce mois d'avril 2026 à recevoir temporairement sur son sol des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis dans le cadre des modalités définies conjointement. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont analysé ces partenariats entre la RDC et les États-Unis. Vous les suivrez tour à tour au micro de Guy Matetsongo. Encore une fois, bonjour à tous. Le renforcement et l'amélioration du climat des affaires au pays, au centre des échanges tenus hier mardi à Kinshasa. La première ministre Judith Suminois Tuluka a échangé avec un groupe d'ambassadeurs représentant l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique dans son cabinet. Au cours de cette rencontre, les diplomates ont insisté sur la nécessité de créer un cadre propice aux investissements, capable de sécuriser les projets existants, d'attirer de nouveaux investisseurs et de favoriser une croissance économique durable. Benjamin Moudoumbi nous en dit plus.
La fiscalité complexe, l'insécurité juridique, l'application de la loi sur la sous-traitance et la question du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG sont des obstacles soulevés comme frein aux investissements lors de cette rencontre. Ces points reflètent la volonté des partenaires internationaux de voir des réformes concrètes pour faciliter les activités économiques. Les ambassadeurs ont par ailleurs exprimé leur intérêt pour des investissements dans des secteurs clés, notamment la culture, les mines, la logistique et d'autres domaines à fort potentiel de croissance. Dans son allocution, l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas en RDC, Angèle Samoura, a soulevé les besoins d'un environnement économique stable et attractif pour que les entreprises déjà présentes puissent se développer et pour attirer de nouveaux investisseurs. Face aux préoccupations des diplomates, Judith Suminois Tuluka a réaffirmé la détermination de son gouvernement à améliorer d'une manière significative le climat des affaires. Elle a rappelé que le premier pilier du programme d'action de l'exécutif met l'accent sur l'assainissement du climat économique pour un dialogue constant entre secteur public et secteur privé.
Puisque nous faisons allusion aux investissements, sachez que Kindu vibre au rythme de la première conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau qui s'ouvre dans quelques heures. Plus de 500 participants nationaux comme étrangers vont faire une autopsie de ces quatre secteurs et vendre les potentialités de la province du Maniema afin d'attirer les investisseurs. Parmi les invités de cette conférence qui se tient du 8 au 10 avril, Madame la ministre nationale de l'environnement. Elle est arrivée sur place hier mardi. Marine Nyang Ndambo félicite et encourage les gouverneurs dans ces initiatives. On écoute Marie Nyang Ndambo dans cet extrait choisi par Florence Kizalunga.
C'est très important de communiquer sur le potentiel de la province de manière à attirer les investisseurs. C'est très important de faire connaître sa province. Beaucoup ignorent le potentiel du Maniema et maintenant que le président de la République est en train de travailler pour attirer les investissements direct étranger, il est très important qu'une telle activité rapporte vraiment des dividendes à la province pour relever l'économie, le social de la province. Donc c'est une initiative très louable que je salue et que nous allons essayer d'accompagner à travers des présentations que nous allons faire. Vous savez, la province du Maniema, c'est une province forestière. Elle détient un grand potentiel dans les éléments qui régulent le climat. Il y a la forêt, il y a l'eau, il y a la biodiversité ici. C'est une province presque vierge, hein, qu'on n'a pas encore vraiment exploitée. Je pourrais dire qu'il y a aussi beaucoup de ressources minières ici qu'on n'a presque pas encore exploitées.
Je le disais en titre, le nouveau chef de la MONUSCO dans nos murs depuis hier mardi soir, James Swan, est arrivé à Kinshasa par l'aéroport international de Ndjili. Il est venu prendre officiellement ses fonctions comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. À sa descente d'avion, James Swan s'est dit très préoccupé par la situation d'insécurité et humanitaire alarmante à l'est de la RDC. Avec son arrivée, a-t-il dit, il va militer pour le respect de la souveraineté de la RDC avec ses institutions et travailler pour la désescalade de tensions au pays en mettant un accent sur les dialogues. James Swan l'a dit au micro d'Askin Zigbiatayoro.
Je suis honoré d'arriver en République démocratique du Congo pour assumer mes fonctions de représentant spécial, de secrétaire général et chef de la MONUSCO. À un moment particulièrement important pour le pays et pour la région. J'arrive avec un message de solidarité à l'endroit du peuple congolais, alors que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC demeure profondément préoccupante et que les civils continuent de payer le plus lourd tribut. Ma priorité est de veiller à ce que la MONUSCO mette pleinement en œuvre le mandat qui lui a confié le Conseil de sécurité, avec un accent clair sur la protection des civils, l'appui à la désescalade et la création de conditions propices à une paix durable. Les Nations Unies se tiennent aux côtés du peuple congolais et des institutions de la République démocratique du Congo, dans le plein respect de la souveraineté du pays. Il n'existe pas de solution uniquement militaire à la crise actuelle. Les progrès nécessiteront le dialogue, l'engagement régional et la mise en œuvre des engagements déjà pris. La protection des civils restera au cœur de l'action de la MONUSCO. Mon expérience antérieure en RDC m'a donné un profond respect pour ce pays, pour son peuple, ainsi que pour l'importance d'une collaboration étroite avec les autorités nationales et les communautés. J'arrive à Kinshasa avec humilité et détermination, pleinement engagé à soutenir le peuple congolais et à faire avancer les efforts nécessaires en faveur de la désescalade et d'une paix durable.
C'est le 5 mars dernier que James Swan a été nommé comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. Il succède ainsi à Madame Bintou Keïta. L'Américain James Swan, diplomate chevronné, cumule plus de 32 ans de carrière au sein du gouvernement des États-Unis avec une expertise approfondie des contextes politiques et sécuritaires africains. Qui est donc James Swan et quel est son parcours? Réponse dans ce portrait que nous présente Élisée Chikota Chivueta.
James Swan n'est pas inconnu de la République démocratique du Congo. Il a occupé plusieurs fonctions diplomatiques de haut niveau, notamment ambassadeur des États-Unis en RDC de 2013 à 2016, chef de mission adjoint entre 2001 et 2004 et chargé des missions dès 1986. Ces affectations lui ont permis d'acquérir une solide connaissance du paysage politique congolais et de ses défis. Avant sa nomination à Kinshasa, il était représentant spécial du secrétaire général pour la Somalie depuis mars 2025, après avoir dirigé auparavant la mission des Nations Unies en Somalie entre 2019 et 2022. Son passage à Mogadiscio dans un contexte d'insurrection et de tensions politiques constitue l'une des expériences les plus marquantes de son parcours onusien. Dans sa carrière bilatérale, James Swan a également servi comme ambassadeur à Djibouti de 2008 à 2011, secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines de 2006 à 2008 et directeur de l'analyse africaine au département d'État américain de 2005 à 2006. Il a aussi été déployé dans d'autres pays comme le Cameroun, la Somalie, le Nicaragua et Haïti.
Parlons sécurité proprement dite. Un calme précaire est observé depuis lundi après-midi à Lukweti, localité située à une dizaine de kilomètres à l'est de Niabiondo, dans les territoires de Masisi. Nous sommes dans le Nord Kivu. Et ce, après des violents combats qui ont opposé dimanche dernier des éléments du M23 au Wazalendo dans la zone. La population civile qui a fui dit craindre des représailles des assaillants qui ont été repoussés à Niabiondo, d'où ils sont venus selon des sources locales. Des détails avec Jir Kabamba.
C'est depuis lundi dans la soirée que les armes lourdes et légères se sont tirées dans cette agglomération stratégique qui est un baston de Wazalendo dans cette zone, d'après des sources locales. Hier, mardi, bien qu'un calme s'observe sur place, la situation sécuritaire reste volatile. Toujours selon les mêmes sources, les habitants qui avaient fui les combats pour se mettre à l'abri disent craindre les représailles des rebelles de l'FC M23 qui se sont repliés vers Niabiondo, d'où ils étaient venus. Mais malgré cette peur, certains habitants commencent à retourner progressivement dans la zone où la localité de Lukweti reste sous occupation des Wazalendo, d'après toujours les mêmes sources. Jusqu'à présent, aucun bilan de ces affrontements n'est encore disponible. Pour rappel, ces combats ont débuté tôt dimanche matin entre des éléments du M23 et des Wazalendo. Des armes lourdes et légères ont été utilisées de part et d'autre, provoquant la panique au sein de la population.
La zone de santé de Boko Kivu loue dans le Congo central frappée par une épidémie de choléra. Révélation faite par le chef des divisions provinciales de la santé dans ces coins depuis dimanche. Sur les 5 cas enregistrés, 4 ont été confirmés, dont un enfant, selon Dr Cosinus Lemba, médecin chef des zones de cette entité qui livre ces chiffres. Il salue par ailleurs les efforts fournis par la riposte contre cette maladie, notamment la sensibilisation de la population et le matériel pour la désinfection. On écoute les explications de Dr Cosinus Lemba, joint par Alain Hirumushi.
À ce qui concerne les stratégies de riposte, la zone de santé avait effectué une descente dans le village Zamba où l'épidémie a débuté. C'est un village où on a constaté 83 habitants de ce village qui ont fui le village. Ils se sont déplacés vers les villages environnants. Parmi les 83, il y avait 50 femmes et 33 hommes. On a eu à placer un site sentinelle dans l'aire de santé où est érigé ce village et on a eu à briefer les personnels de santé de cette aire de santé. On a été approvisionné par les niveaux central à ce qui concerne les kits de riposte parmi lesquels on avait les intras sur les doxycycline, il y avait les chlore pour la désinfection, il y avait azithromycine, il y avait des Ranger lactate et des sérums physio et sérums glycosés. Il y avait aussi des sacs mortuaires. Il y avait également des tenues de protection pour ces ripostes.
Et puis, des milliers d'enfants privés d'école dans les villages de Torgues, Jo et Gbi, en chefferie des Bahemanor, en Ituri. En cause, des infrastructures scolaires détruites lors des violences armées survenues il y a plus d'une année sur les littorales du lac Albert. Malgré le retour de près de 80% des populations à la faveur d'une accalmie, les activités scolaires restent suspendues dans plusieurs établissements. Les notables locaux lancent un appel aux autorités et aux organisations humanitaires pour la réhabilitation des écoles afin de garantir le droit à l'éducation des enfants. Martial Kizabiamongo.
Depuis le mois de novembre 2025, des milliers de familles regagnent progressivement leur village situé sur les littorales du lac Albert dans les territoires de Djougou. Ces populations majoritairement composées de femmes et d'enfants avaient fui les affrontements armés entre les FRDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire CRP de Thomas Lubanga. Aujourd'hui, avec l'accalmie observée dans cette région lacustre, la vie reprend peu à peu. Mais sur le terrain, plusieurs infrastructures sociales de base restent détruites. Parmi elles, de nombreuses écoles complètement incendiées ou pillées. Les notables locaux déplorent une situation préoccupante. Leurs enfants sont privés d'éducation depuis plusieurs années. Les rares bâtiments encore visibles à l'état des ruines n'inspirent pas confiance aux parents qui hésitent à y envoyer leurs enfants. Face à cette situation, ils appellent le gouvernement à agir, notamment à travers les programmes de développement des 145 territoires pour reconstruire les écoles dans ces zones touchées par les conflits. Bounia, Martial Kiza, Biamungu, Radio Okapi.
Autre problème du côté de Beni, cette fois-ci, dans le Nord Kivu, avec la série de reportages consacrés à la crise qui touche des milliers d'enfants privés d'actes de naissance. Cette absence des registres et d'enregistrement des enfants, notamment les actes de naissance, ne se limite pas à un simple problème administratif. C'est pourquoi, toute cette semaine, Radio Capi vous propose une série de reportages consacrés à cette crise. Dans ce deuxième numéro, nous nous intéressons aux conséquences concrètes de cette situation sur la vie et l'avenir de ses enfants. Reportage de Martial Papimoukeba.
L'absence d'actes de naissance pour des milliers d'enfants à Beni a des lourdes conséquences. Sylvain Kakule Lumbulumbu, chef du bureau de l'état civil, explique.
Un enfant qui voudrait voyager avec sa maman, par exemple, aujourd'hui vous savez avec le trafic d'enfants, les instructions que nous avons reçues de notre hiérarchie, donc même vous, vous ne saurez pas vous déplacer avec votre fils parce que à la DGM là-bas, on va vous exiger l'acte de naissance pour prouver réellement que l'enfant est le vôtre. Et donc ça, c'est un effet immédiat. À la longue, ça peut bloquer l'enfant des jours de ses droits politiques, par exemple.
Les risques vont encore plus loin, prévient Maître César Fazila, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Nord Kivu.
L'enfant peut avoir des difficultés d'accès aux droits fondamentaux. Par exemple, lorsque vous devez inscrire l'enfant à l'école, il faut produire son acte de naissance. Même dans les universités, on demande les actes de naissance. La filiation paternelle peut être difficile à établir. Autre conséquence, c'est l'atteinte à la nationalité.
Une situation qui met en lumière la nécessité d'une intervention urgente pour protéger les enfants de Beni. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Actualité internationale.
République centrafricaine. Près de deux ans après son arrestation à Zémion, dans le sud-est de la Centrafrique, le chercheur et humanitaire belgo-portugais Joseph Figueira a été libéré. Celui qui fut arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État a quitté Bangui mardi 7 avril.
L'invité.
La République démocratique du Congo va commencer à partir de ce mois d'avril 2026 à recevoir temporairement sur son sol des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis dans le cadre des modalités définies conjointement. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier mardi ont analysé ce partenariat entre la RDC et les États-Unis. On les écoute au micro de Guy Maté Tsongo.
Jean-Thierry Mosenepo, vous êtes cadre du Parti politique Convention des Congolais Unis CCU. Parti membre de l'Union sacrée de la Nation, comment vous expliquez cet accord RDC-gouvernement américain relatif à l'accueil sur le sol congolais des ressortissants des pays tiers expulsés par les États-Unis?
Merci beaucoup. D'abord, il faut signaler que la République démocratique du Congo n'est pas engagée dans une politique d'immigration au sens classique, mais dans un mécanisme temporaire, encadré et souverain d'accueil de migrants en transit défini avec les États-Unis, comme l'a signifié le communiqué du porte-parole du gouvernement. Il est essentiel de parler de migrants et non d'immigrants, car il ne s'agit ni d'installation durable, ni d'intégration. Chaque situation, il faut le signifier, est traitée individuellement sous le contrôle des autorités congolaises dans le respect strict de notre souveraineté et de nos exigences sécuritaires. Il faut aussi ajouter par ailleurs que cet accord présente un avantage fondamental. Il ne coûte absolument rien aux contribuables congolais. La prise en charge étant entièrement assurée par le gouvernement américain, il s'inscrit dans une logique de coopération internationale et de positionnement stratégique de notre pays.
Voilà, dans les communiqués relatifs à cet accord, nulle part on évoque la contrepartie de ces partenariats. À votre avis, qu'est-ce que la RDC gagnerait ou gagnera dans ces partenariats? Vous avez dit qu'il les présente beaucoup d'avantages, mais c'est quoi l'intérêt de la RDC dans ces partenariats?
D'abord, il faut noter que nous avons une dimension internationale. La RDC gagne d'abord en ce qui concerne sa stature internationale. Donc c'est ça le poids diplomatique. Deuxièmement, c'est le renforcement de nos relations diplomatiques avec les États-Unis. Nous sommes aujourd'hui en train d'avoir un accès privilégié avec la première puissance économique et militaire du monde. Et ces relations directes avec une grande puissance ont des répercussions pour notre pays.
Merci. Christian Mwando-Simba, vous êtes député national élu de Moba dans la province du Tanganyika. Vous êtes cadre d'Ensemble pour la République, parti politique de l'opposition et président du groupe parlementaire Ensemble à l'Assemblée nationale. Vous êtes également ministre honoraire. Comment vous réagissez à ces partenariats entre la RDC et le gouvernement américain sur l'accueil sur le sol congolais des personnes expulsées des États-Unis?
Je pense que ce qui a été décidé unilatéralement par le gouvernement sans l'accord du Parlement illustre une fois de plus l'irresponsabilité totale de ce gouvernement, qui d'abord ne se rend même pas compte, vous avez suivi mon ami et collègue Monsenempo, il ne se rend même pas compte que nous sommes en guerre aussi et que nous avons les pires difficultés. Il considère que nous sommes dans un pays où tout va bien et où on peut accueillir des milliers de personnes dont les États-Unis ne veulent pas. Il s'agit donc d'une question de responsabilité, une question de souveraineté, parce que c'est brader notre territoire, parce qu'aujourd'hui on va recevoir des gens qui sont indésirables aux États-Unis et dont on ne connaît pas les statuts. Ce sont des gens qui sont indésirables dans un pays et que, en négociant à genoux, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le gouvernement congolais a négocié en toute souveraineté. Non, il a négocié à genoux. Parce que...
Et donc, on a mis le gouvernement congolais devant un fait accompli.
Pas seulement mettre devant un fait accompli, le gouvernement congolais, qui est en train de quémander sa survie aux États-Unis, n'était pas en position de donner un point de vue qui affirme la souveraineté de notre pays.
Merci, professeur Alidor Chibanda. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de Kinshasa et enseignant à l'Université pédagogique nationale, l'UPN. Vous vous intéressez à l'État et à la démocratie. Quelle est votre lecture de cet accord entre la RDC et le gouvernement américain relatif à l'accueil sur le sol congolais des ressortissants des pays tiers expulsés des États-Unis?
Est-ce que la décision qui avait été prise, si je reviens sur la dimension juridique, a-t-elle respecté les accords que le Congo a signés au plan international, notamment la Convention sur les statuts de réfugiés de 1951, parce que le Congo a ratifié cet accord et le protocole qui en est suivi en 1975. Or, les États-Unis d'Amérique ne sont pas signataires de cette convention. Donc, ils peuvent refouler, ils sont dans cette liberté-là de refouler. Mais nous, nous ne pouvons ni refouler, ni refuser de protéger les réfugiés. À ce titre-là, en acceptant de recevoir ces gens dans notre pays, en signant un accord avec les Américains qui décident de refouler, c'est comme si nous marchions sur une disposition que nous, nous avions ratifiée.
Vous pouvez continuer à écouter Dialogue entre Congolais sur www.radiocapi.net et sur toutes les plateformes numériques de Radio Capi, Facebook, X et YouTube. Voilà qui met fin à ce journal coordonné et supervisé par Lievin Mwinga Vubu et mis en onde demain des maîtres par André Mongou. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Radio de la Paix.